Une pénurie d'épipènes. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu en début d'état de panique. On va essayer de faire le point un petit peu sur tout ce qui se passe avec ça, parce qu'on nous dit que le Canada risque de traverser en août sa troisième pénurie d'épipènes en l'espace de quelques mois. Et selon certains experts, c'est une situation qui pourrait être évitée. Alors, pour faire un petit peu le point puis comprendre un peu ce qui se passe avec tout ça, parce qu'on est dans la grosse pharmaceutique, j'ai en bout de ligne le professeur Marc-André Gagnon, qui est professeur en politique publique à l'Université Carleton. Bonjour, professeur Gagnon.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe exactement avec cette histoire de pénurie d'épipènes?
En fait, au Canada, des pénuries de médicaments depuis quelque temps, c'est assez régulier. Sur la question plus spécifique de l'épipène, bon, là, ce qui arrive en ce moment, c'est que c'est une usine de production au Missouri qui a eu des problèmes, en fait, qui n'ont pas respecté les standards de sécurité. Il y a eu des inspections et on a arrêté la production. Donc, ils doivent, à ce moment-là, ajuster la chaîne de montage, etc., avant de pouvoir se remettre à produire.
Et c'est pas tellement le médicament comme tel. Hein? Si j'ai bien compris, c'est plus ce qu'on utilise pour injecter le médicament.
Bien, en fait, c'est ce qui est particulier avec l'épipène, c'est que l'épipène, c'est un auto-injecteur d'épinéphrine. Ouais. Là, l'épinéphrine, c'est de l'adrénaline. Mais l'épinéphrine comme médicament, ça fait très longtemps que ça existe et ça, on en produit, il n'y a pas de souci. C'est la question de quel dispositif médical on utilise pour se l'injecter. Mm-hmm. L'épipène est une marque de dispositif médical qui est bien connue et reconnue. Et à ce moment-là, c'est cette marque-là qui a réussi à un petit peu à prendre toutes les parts de marché des auto-injecteurs d'épinéphrine. Et à partir de là, on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a une compagnie qui a un monopole parce que les gens mm-hmm. ne peuvent simplement avoir cette marque d'auto-injecteurs en tant que dispositif médical. Et là, au niveau de la production, ben, il y a un pépin et on se retrouve dans cette situation de pénurie actuellement.
Mais là, on apprend quand même qu'il y a des produits, des entreprises pharmaceutiques, Kaléo Pharma, Taro Pharmaceutical, Valeant Canada, Lincoln Medical, eux autres ont tous eu l'aval de Santé Canada pour commercialiser leurs produits, mais on les voit pas du tout sur les tablettes. Comment ça se fait dans nos pharmacies? Comment se fait-il?
Bien, en fait, il faut comprendre, pour créer un marché pour un produit, il ne s'agit pas juste d'avoir une autorisation de mise en marché, il faut qu'il y ait une demande pour ce produit-là.
Okay.
Et là, il faut comprendre, la compagnie qui produit l'épipène, bon, c'est la compagnie Mylan, mais c'est distribué au Canada par Pfizer. En fait, Mylan et Pfizer ont réussi à très bien défendre leur marque de commerce et en faire une espèce de sceau de sécurité, alors qu'une nouvelle marque qui arriverait sur le marché, disons que les gens ont plus de crainte d'une part, et aussi un dispositif, un auto-injecteur comme dispositif médical, ça peut prendre des formes très différentes. Là. L'épipène est plus connu, les gens savent mieux l'utiliser. Si j'arrive avec un auto-injecteur qui au lieu d'avoir la forme d'un crayon, a la forme d'un cube ou quoi que ce soit, les gens ils savent pas trop comment l'utiliser, on a peur en cas d'urgence, comment faire, etc. Donc, les compagnies Pfizer et Mylan ont très bien réussi à aller chercher un monopole en construisant une bonne réputation autour de la marque.
Ce que vous avez appelé, j'ai adoré votre expression, le culte de l'épipène.
Ben tout à fait. Grosso modo, c'est une des façons qu'on construit cette réputation-là, c'est en essayant de gonfler tout problème qui peut être survenu avec une autre compagnie, avec un autre auto-injecteur. Bon, en cas d'urgence, ça a été mal injecté, il y a eu des problèmes, mm-hmm. et à ce moment-là, on va essayer de mettre une emphase médiatique sur les problèmes que le concurrent a pu avoir. Mais en fait, ce qu'on vient de voir avec l'épipène en ce moment, c'est que la fermeture de la chaîne de production de l'usine du Missouri est faite parce qu'elle ne rencontre pas les normes de sécurité. En fait, l'épipène a autant de problèmes au niveau de sa production, au niveau de la sécurité que les autres marques, mais on réussit à mieux construire une réputation. Mm-hmm. Puis quand je dis mieux construire une réputation, c'est à la fois dans la tête des médecins et des patients, Mais il faut comprendre la façon que ça s'est joué aux États-Unis en particulier. Il faut comprendre le marché canadien est ancré dans le marché nord-américain. Fait qu'une usine qui produit à la fois au Canada et aux États-Unis. Mais aux États-Unis, de la façon que on a fait voter des lois pour rendre obligatoires les auto-injecteurs d'épinéphrine dans les écoles. Mais le lobbying a été si intense de la part de Mylan et Pfizer que dans les textes de loi, c'est pas les auto-injecteurs d'épinéphrine qui sont devenus obligatoires, c'est les épipènes.
Imagine.
Donc à ce moment-là, l'ensemble du marché américain se retrouvait avec des épipènes obligatoires partout. Ça, c'est la marque que tout le monde connaît, on fait confiance, et c'est ça qui devient obligatoire. Les autres marques, on les évacue du marché carrément. Évidemment, le problème, c'est si on donne ce genre de monopole-là, ben, aux États-Unis, ce qu'on a vu, c'est que les épipènes ont quadruplé de prix dans les jours qui ont suivi la mise en place de ces lois-là, parce qu'on peut se le permettre si on a un monopole institutionnel.
Et comment est-ce qu'on peut solutionner le problème à court terme? Est-ce que le gouvernement peut-être diversifier ce qui ferait partie de la couverture au niveau de ce type de médicaments? Qu'est-ce qui peut être fait? Parce que, bon, j'entends les partis d'opposition dire « Ah, il faut que le gouvernement Trudeau agisse, il faut qu'il se passe quelque chose, on ne peut pas arriver avec une rupture de stock, la panique va s'installer, c'est quand même vital pour certaines personnes. » Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui peut être fait à court terme?
Mais en fait, là, le problème, c'est le problème du court terme. C'est-à-dire que si on veut, en ce moment, il faut comprendre pour ce type de médicaments. En fait, à la fois pour les médicaments de marque et les médicaments génériques, ça nous coûte beaucoup plus cher au Canada que dans les autres pays de l'OCDE, mais aussi, on a beaucoup plus de pénuries. Et une des raisons, c'est qu'on a un système qui est très fragmenté. Chaque province a son propre système d'approvisionnement pour le régime public, mais ensuite, il y a les régimes privés, etc. On a un système qui est complètement fragmenté et à la fois, bon, il y a le provincial qui achète, c'est le fédéral qui doit monitorer ce qui se passe avec Santé Canada, mais qui n'ose pas trop intervenir. Santé Canada est très passéiste, un petit peu, des fois, dans sa façon d'agir, peut être passive. Donc, il n'y a personne qui est vraiment en charge. L'idée, c'est que ce qu'il nous faut, c'est par exemple, ce serait une agence centrale d'achat de médicaments, par exemple avec des systèmes d'appel d'offres, dans lesquels on met des clauses spécifiques pour assurer la sécurité de l'approvisionnement. Donc, si au niveau de la façon qu'on s'approvisionne en médicaments, on réussit à mettre des conditions claires pour assurer une plus grande sécurité de cet approvisionnement-là, ben c'est comme ça qu'on réduit le problème à la base. Là, dans le contexte actuel, ben on va pas. Ça, c'est pas une solution de court terme.
Ça, parce que ça sonne beaucoup comme un régime pan-canadien d'assurance médicaments, et c'est pas demain la veille qu'on va se retrouver avec ça, là.
Ben, faut comprendre, on a des grosses consultations pan-canadiennes en ce moment sur cette question-là. En juin prochain, on doit avoir des recommandations sur comment mettre en place un tel régime au Canada. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte de voir ce qui vont arriver en juin prochain, mais pour l'instant...
Est-ce que c'est pas le temps pour les autres compagnies? Est-ce que c'est pas le temps pour les autres compagnies qui ont l'autorisation de peut-être profiter de cette rupture de stock, si on veut, puis de ce problème d'épipène pour dire, hey, on embarque là-dedans parce que c'est un peu un cercle vicieux. Vous nous prenez pas parce que vous avez plus confiance dans l'autre compagnie, mais comme vous devriez pas avoir aussi confiance parce qu'il y a eu des problèmes. Alors c'est le temps de nous essayer. Est-ce que ça ne serait pas le temps pour eux de s'activer là-dessus?
Bien, en fait, tout à fait. Mais d'un autre côté, c'est que une compagnie qui a discontinué la production, mettre en place une chaîne de montage qui respecte les standards avec une qualité de produit qu'on va mettre en marché, distribuer à l'ensemble du pays, ça ne se fait pas en deux semaines, là, on s'entend. Là, c'est une question de plusieurs mois. Ce qui est un peu triste, c'est que on avait une belle opportunité au Canada cette année. En particulier, bon, l'Ontario a mis en place un régime public universel avec un accès gratuit aux médicaments pour les jeunes de moins de 25 ans. Entre autres, on a inclus l'épipène. L'épipène qui n'est pas un médicament prescrit, mais qui était quand même couvert. Et donc, on s'est retrouvé avec plein de gens qui sont mis, pas à accumuler des épipènes, mais qui disaient, ben là, au lieu d'en prendre juste un, On va en laisser un à l'école dans le casier de mon enfant, puis on va en laisser un dans la voiture, ou je sais pas. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé, les autres pénuries d'épipènes qu'on a eues cette année, c'était cette très forte augmentation de la demande qu'on a eue en Ontario, entre autres, qui était responsable de ça. Et là, ça ouvrait une fenêtre d'opportunité pour dire, ben là, il y a une grande demande pour ces produits-là. Le problème, c'est qu'on reste avec une mentalité médicale où est-ce que on fait pas trop confiance aux autres produits. On ne jure que par l'épipène. Donc, même si les autres compagnies voulaient essayer d'entrer le marché, les occasions d'affaires
sont assez minces.
Restaient assez minces, effectivement.
OK. Donc, non, c'est pas, il y a pas l'air d'avoir 36 solutions. Ça veut dire, par contre, si pour avoir une rupture de stock, ceux qui en ont un, deux ou trois, allez pas en chercher d'autres. Laissez la place à ceux qui n'en ont pas, parce que j'ai pas l'impression que ça va se régler d'ici un mois ou deux, là.
En fait, ça, c'est une des façons qu'on peut gérer la pénurie pour l'instant, c'est d'essayer de prioriser ceux qui ont besoin plus criants d'auto-injecteurs d'épinéphrine, d'une part. Mais l'autre possibilité, oubliez pas, là, grosso modo, on attend les prochaines livraisons à la fin du mois d'août. D'ici là, l'idée, c'est que faut comprendre les dates de péremption sur les médicaments. Ouais. Cette date-là, je veux dire, un médicament va être très bon encore plusieurs mois, voire des années après la date de péremption. Fait que si jamais le médicament vient à échéance, écoutez, gardez encore pour quelques mois les épipènes que vous avez déjà et ça changera rien au niveau de la qualité de ce que vous allez vous injecter en cas de besoin. Là.
Merci beaucoup, professeur Gagnon. C'était extrêmement intéressant, puis ça montre que dans tout ce qui touche le pharmaceutique, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Encore une fois, merci. Merci d'avoir participé à l'émission.
Ça m'a fait plaisir.
Alors, c'était le professeur en politique publique à l'Université Carleton, Marc-André Gagnon.